Bonsoir à tous. Voilà, on est toujours, vous le savez, sur l'éthique chrétienne et on est dans le couple. Alors ce soir, on va poursuivre notre étude sur l'éthique chrétienne dans le couple. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient là mardi dernier, j'avais choisi de prendre quelques couples dans la Bible et de voir ce qu'on pouvait en tirer comme leçon. Alors la semaine dernière, j'avais abordé un premier couple, le premier couple de l'humanité, facile, Adam et Ève, voilà, très bien. Alors j'aimerais juste faire un petit rappel, ça va être très bref, mais ce qui était intéressant en tout cas de constater tout d'abord, c'était au travers d'Adam et Ève que c'était dans la volonté de Dieu. C'était voulu de Dieu que le couple soit l'union d'un homme et d'une femme. Et Dieu n'avait pas créé Adam de la même manière que les animaux. Dieu avait insufflé son souffle de vie en Adam. Dieu avait pris soin aussi de connaître le besoin d'Adam parce qu'il va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il va créer Ève, enfin la femme, parce qu'après c'est Adam qui va nommer Ève. Et en fait, il va le créer à partir d'une de ses côtes et non à partir de la terre, etc., mais vraiment à partir d'une côte d'Adam. Et de cette manière, donc je dirais même de cette première intervention chirurgicale, Dieu démontre qu'il y a un lien donc très fort entre un homme et une femme. On avait vu aussi que dans les textes hébraïques, et ça je voulais quand même le souligner, parce que dans les textes hébraïques, le mot « ish » c'est « homme » et le mot « isha » c'est « femme ». Et en fait, dans ces deux termes, il y a deux lettres qui sont communes, donc c'est la lettre en forme de « n » qui est « aleph », et la lettre Shin qui ressemble à un W. Et en fait, ensemble, si on les prend, ces lettres, et qu'on les retire d'homme et de femme, ça fait le mot Esh. Ce qui signifie en gros le feu ou la flamme qui détruit tout, le feu qui dévore. Et en fait, si on leur rassemble donc les lettres restantes, on a donc le mot Yah, qui veut dire qui est Dieu, qui est l'abréviation donc, du tétragramme, que vous connaissez Yahweh, donc le nom imprononçable de Dieu. Et en fait, cette particule, en fait, on le trouve aussi dans l'acclamation Alléluia, louer Dieu. Donc on voyait déjà que Dieu était présent chez l'homme, chez la femme, donc dans le couple, mais que si l'homme et la femme décidaient de se couper de Dieu, il y avait le feu à la maison. Voilà. On a constaté aussi l'importance qu'il y avait dans le couple d'avoir une bonne communication. Parce que Dieu va dire à Abraham, souvenez-vous, tu peux manger tous les fruits du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance. C'est exactement ce que Dieu va dire à Adam. Sauf que quand le serpent va venir et va s'adresser à Ève, en fait, lui, il va retourner les choses. Vous voyez, le diable, il aime bien retourner les choses. Et il va dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin ?» Ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Et Ève, en fait, on a vu qu'elle va répondre, mais en ajoutant peut-être une touche de féminité. Je ne sais pas, elle va dire « En ce qui concerne le fruit de l'arbre au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas. » Pardon. Toucherez pas. En fait, Dieu n'a pas dit ça à Adam. Il n'a pas abordé cette notion de toucher. Donc, c'est peut-être un détail peut-être, certes, mais ça peut susciter quelques questions. Des questions comme, est-ce que Adam a mal compris ce que Dieu lui avait demandé et du coup, il a induit Ève en erreur? Ou est-ce que Ève a voulu ajouter sa petite touche personnelle? Ou est-ce que l'intervention du serpent, finalement, a suscité cette erreur? Voilà, des questions qui peuvent être là en suspens. Mais toujours est-il qu'une bonne communication est importante dans un couple. Et ça évite beaucoup de désagréments et de malentendus. Et je crois que à ce que Dieu dit, nous n'avons rien à rajouter. La parole de Dieu, elle est vérité, et on n'a rien à rajouter à ceci. On avait vu aussi l'importance de l'homme dans le couple, parce que lorsque le serpent était là en train de discuter avec Ève, on s'est aperçu que Ève va manger le fruit et que Adam était juste à côté. Et en fait, Adam donc, va rester finalement sans rien faire, absent. Et je crois que dans notre société actuelle, l'homme, ou je dirais plutôt le mari chrétien, a une responsabilité importante dans son couple. Il doit veiller aux besoins de son couple, veiller à toutes les menaces qui pourraient aussi eh bien, mettre en péril son couple, veiller à la vérité de la parole de Dieu et à ce que Dieu soit toujours au centre de son couple. Et enfin, le péché, malheureusement, a eu raison du couple d'Adam et Ève. Et des conséquences lourdes donc, se sont appliquées, que nous vivons encore aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, n'a pas abandonné celui qu'il a créé à son image. Parce qu'encore aujourd'hui, Dieu bénit. Dieu bénit les couples. Amen. Alors, je vous propose ce soir de voir donc deux autres couples. Et j'appelle donc à la barre le couple d'Abraham et Sarah. Ou alors un couple fondé sur la foi. Alors, on pourrait dire que le couple d'Abraham et Sarah, on pourrait le qualifier comme le vrai couple. Premier vrai couple dans le sens où eh bien, on voit qu'ils se parlent. Okay, tout à l'heure, je parlais d'Adam et Ève. Et c'est vrai que finalement, quand on lit les textes, on ne voit pas de dialogue entre Adam et Ève. Alors, est-ce qu'il y avait une communication vraiment entre eux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans le couple d'Abraham et de Sarah, eh bien, c'est qu'il y a une discussion. On les voit interagir, on voit que la Bible nous donne plusieurs éléments sur la nature de leur relation, donc entre eux, mais aussi avec les personnes qu'ils vont rencontrer. Et l'histoire de ce couple commence à partir de la fin de Genèse 11 et jusqu'à Genèse 25, donc soit 14 chapitres. Et au chapitre 25, on peut lire qu'Abraham va décéder à l'âge de 175 ans. Et le couple d'Abraham et Sarah, en fait, va s'articuler autour d'une promesse que Dieu va faire à Abraham. On lit ça dans Genèse chapitre 12 et versets 1 à 3. Il est écrit, « Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre, je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, par toi je bénirai toutes les familles de la terre. » C'est une belle promesse, on est d'accord. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il y avait des prérogatives quand même. Abraham devait quitter son pays, c'est-à-dire la terre où il a grandi. Autrement dit, c'était un déracinement complet que Dieu lui demandait. Et vous le savez très bien que dans notre chère nature humaine, elle s'attache souvent à ce qu'elle connaît et pas toujours à ce qu'elle ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire ? La peur un peu de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, on s'attache à ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vécu. Parce qu'on sait que, voilà, si on fait ça, ça va être ça. La deuxième prérogative, eh bien, c'est qu'il fallait qu'il ait une femme qui enfante. C'est logique. Pour qu'un grand peuple naisse de lui, il fallait que son épouse Sarah puisse lui donner un enfant. Troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'était une sacrée dose de foi en Dieu. Parce que Dieu lui dit de quitter son pays, ses racines, pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît même pas la destination. Donc Dieu lui promet qu'il y aura un peuple nombreux qui naîtra de lui, mais il y a un problème. C'est que Sarah, eh bien, est stérile. Et ce couple, en fait, se retrouve donc avec une promesse, mais pas de date. Pour enfanter. Une vision, mais aucun signe. Et Abraham avait quand même 75 ans à ce moment-là, lorsque Dieu va lui demander de quitter son pays. Et c'est seulement 25 ans plus tard qu'Isaac, l'enfant de la promesse, naîtra. Et Abraham a alors 100 ans et Sarah un peu plus de 80 ans. Ce qui va caractériser en fait le couple d'Abraham et Sarah, tout d'abord, ce que j'ai noté, c'est que c'est la patience qu'ils ont eue tous les deux d'attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Bien sûr que cela ne les a pas empêchés, malheureusement, de faire des erreurs. On voit dans le récit entre Abraham et Sarah qu'au moment d'arriver en Égypte, Abraham va mentir au sujet de sa femme. Il va même demander à Sarah, « Dis-leur que tu es ma sœur. » Sarah, elle, de son côté, au bout peut-être d'une dizaine d'années, elle voit bien que son ventre ne grossit pas. Elle voit très bien qu'elle ne pourra pas enfanter. Cela va certainement provoquer un choc, je dirais, psychologique, ce qui va l'amener à prendre une servante qui s'appelle Agar pour l'emmener devant Abraham. Et c'était une sorte de coutume qui était pratiquée à cette époque. Mais en agissant de cette manière, elle pensait peut-être que le problème serait réglé. Mais c'est tout le contraire. Parce que lorsqu'Agar va devenir enceinte, eh bien, Sarah va devenir aigrie. Et elle va aller jusqu'au point de maltraiter Agar. Et d'ailleurs, Abraham va voir que la situation dégénère, donc il va lui dire, écoute, chasse-la ou ramène-la d'où elle vient. Mais malgré tout cela, ils ont patienté ensemble dans la promesse. Abraham et Sarah sont restés ensemble, vous savez, dans l'attente. On vous dit ça vraiment dans le passage. C'est-à-dire, en fait, qu'ils tenaient, eh bien, pour moi, c'est comme ça que je le vois, qu'ils tenaient chacun leur place respective dans le foyer. Ils ont traversé ensemble des épreuves. Et à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils étaient ensemble, en restant fidèles à Dieu. Et moi, je crois qu'un couple est destiné à fonder son amour en Dieu, à rester ensemble, vivre ensemble, se supporter l'un et l'autre en apprenant à se connaître et à s'apprécier, mais aussi à traverser les épreuves ensemble en faisant confiance à Dieu. Alors ça ne veut pas dire que tout sera rose, ça demandera certainement à des moments de se réajuster, ça demandera aussi de la patience, ça demandera aussi du temps pour apprendre à se connaître, mais ça demandera surtout de la foi et de l'amour de Dieu. Et au moment où la foi d'Abraham vacille, parce que même le doute, ça atteint même les plus grands de la foi, Dieu va venir à Abraham sous la forme de trois voyageurs. Vous vous souvenez de ça? Et il va informer, il va dire à Abraham que dans un an, ta femme enfantera. Sarah, elle, par contre, n'était plus en âge d'enfanter. Mais en tout cas, Dieu lui promet que l'année prochaine, sa femme, donc Sarah, enfantera Isaac. Et la Bible nous dit que Sarah, justement, va rire. Elle va rire au fond d'elle. Est-ce que c'était par incrédulité? Est-ce que c'était parce que, est-ce que c'est une blague? Parce qu'elle avait quand même pris de l'âge, elle avait pris quelques cheveux blonds, Abraham aussi. Et j'imagine, elle a dû se dire, mais comment est-ce possible? Mais la parole de Dieu déclare, et c'est Jésus qui dira ceci, c'est impossible pour les hommes, mais pour Dieu, tout est possible. Et la parole que Dieu avait annoncée donc à Abraham s'est accomplie. Parce que Dieu promet, lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit toujours. Et Sarah donc va donner naissance un an plus tard à Isaac, et ce, malgré les impossibilités humaines. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu veut bénir les couples et il le fait. Et dans un couple, vous savez qu'on a des projets. On a plein de projets quand on est en couple, quand on s'est marié. On peut avoir des projets d'avoir des enfants, un projet d'acheter une maison, d'acheter la dernière cafetière par exemple. Un projet professionnel aussi. Et en fait, tout ça, c'est des bonnes choses que l'on ait des projets en couple. Mais j'aimerais dire que même si on ne voit pas les choses se former tout de suite, eh bien, ne baissons pas les bras avec Dieu. Sachons persévérer en tenant bon et ferme dans la foi. Encourageons-nous les uns les autres par des prières. Encourageons-nous par des temps de communion fraternelle comme on a pu le faire juste avant, en passant un temps dans la prière, en partageant nos sujets, nos besoins. Peut-être aussi partager des gestes d'affection avec un frère ou une sœur, des gestes, des paroles aussi encourageantes. Ça fait du bien quand on se sent soutenu dans l'épreuve. Et ce qu'on peut retenir du couple d'Abraham et Sarah, bien sûr, il y a beaucoup de choses à noter, mais moi j'ai noté trois choses, c'est qu'ils ont cru même quand ce n'était pas logique. Avoir un enfant à cet âge-là, ce n'était pas logique. Humainement, ce n'est pas possible. Et pourtant, lorsque Dieu déclare une promesse sur nos vies, il l'accomplit toujours. Ensuite, ils ont commis des erreurs, mais Dieu a tout de même continué son plan. Et enfin, ils ont vieilli ensemble en gardant la promesse de Dieu. Et j'ajouterai deux choses. J'ajouterai que aimer, c'est savoir attendre sans tout casser. 25 ans d'attente, c'est long, c'est éprouvant, c'est décourageant. Mais lorsque Dieu promet une chose, sa promesse s'accomplit toujours. Et parfois dans nos vies, Dieu, vous savez, ne nous dit pas non. Il ne dit pas non par rapport à ton projet, il ne va pas dire ça, il va dire pas encore. Patiente et continue de persévérer. À nous de prendre notre mal en patience et ne cherchons pas à vouloir, un peu comme ce que Sarah a fait, à forcer le bras de Dieu ou à vouloir nous-mêmes réaliser la promesse que Dieu met sur nos cœurs. Et enfin, aimer, c'est rester fidèle dans son couple. Abraham et Sarah ont vieilli ensemble. Pourtant, ils avaient beaucoup de raisons de se séparer finalement. Et pourtant, jusqu'au bout, ils sont restés ensemble. Ils ont traversé toutes les épreuves ensemble jusqu'à la naissance d'Isaac. Alors c'est un exemple pour nous de rester fidèles. Même dans notre couple, à rester fidèles à l'égard de notre époux, de notre épouse. Et je vous l'accorde, même si votre mari peut-être peut ronfler sur le canapé devant la télé, restons fidèles. Soyons des couples qui restons fidèles l'un à l'autre, mais restons aussi fidèles à Dieu, parce que lui demeure toujours fidèle envers nous et envers les promesses qu'il déclare sur nos vies. Amen. Ensuite, le deuxième couple que j'aimerais appeler à la barre, c'est le couple de Ruth et Boaz. Alors, c'est un couple inattendu, ou alors ça peut être aussi comme une vue, comme une préparation avant d'être en couple. Ruth et Boaz, donc un couple inattendu, parce qu'en fait, déjà de premier abord, rien n'envisageait leur union. Vous connaissez un peu l'histoire de Ruth et Boaz ou pas? D'un côté, on a Ruth, qui était d'origine quoi? Moabite, exactement, païenne quoi. Les Moabites sont les descendants de Moab, qui était le fils de Lot. Voilà. Et de l'autre côté, on a Boaz, ou Bouz, des fois, c'est écrit selon les traductions, qui était un enfant d'Israël. Okay, c'était un héritier des promesses faites à Abraham et ses descendants. Et en fait, si rien ne prévoyait de premier abord leur rencontre et leur union, leur mariage, eh bien, on s'aperçoit finalement, en faisant un petit zoom sur le livre de Ruth, eh bien que Dieu n'était pas si loin que ça quand même. L'histoire commence donc d'une manière un peu tragique. Élimélec et Naomi, ou Noémie selon les traductions, sont partis dans le pays de Moab, okay, à cause d'une grande famine qui toucha leur pays d'origine, donc Juda. Et en fait, ils ont deux garçons qui vont tous les deux épouser donc deux femmes moabites. Ruth et... J'ai entendu Orpa, exact. Mais tragique accident, Abimélec et ses deux garçons décèdent, laissant la suite donc de l'histoire à trois veuves et sans descendants, Naomi, Ruth et Orpa. Naomi donc décide de retourner dans son pays, le pays de Juda. Et en fait, sur le chemin, le passage nous dit qu'elle va s'adresser à ses deux belles-filles. Et elle va leur dire, mais retournez chez vous, retournez dans vos familles. Orpa va le faire, mais Ruth, elle, va décider, coûte que coûte, de suivre sa belle-mère. Sa belle-mère, je précise. Ça parle des belles-mères. En tout cas, elle va suivre sa belle-mère. Et on lit ça dans Ruth chapitre 1, au verset 16 et 17, et elle va dire ça. Ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et là, on m'enterrera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. C'est des paroles fortes quand même, là, ce qu'elle déclare. C'est pas je viens avec toi voilà, pour t'accompagner, juste pour être là avec toi. Non. Là, il y a, dans les paroles de Ruth, en fait, on voit que d'une certaine manière, Naomi avait communiqué sa foi en Dieu. Vous comprenez? Comme si Naomi, elle avait, au travers de peut-être ses paroles, peut-être son témoignage, ses actes, avait communiqué la foi de Dieu à Ruth. Et Ruth était prête ici à tout quitter, perdre, pour suivre Naomi à cause de sa foi en Dieu. Et je dirais par là qu'il y a quelque chose qui était en train de germer déjà dans le cœur de Ruth. Et ce, malgré qu'elle soit une païenne. En arrivant à Bethléem, la première chose que fait Ruth, vous savez ce que c'est? Elle va chercher un mari. Non. Ruth chapitre 2, versets 2 et 3. Un jour, Ruth, la Moabite, dit à Noémie, alors Noémie, Naomi, « Laisse-moi aller dans les champs, je ramasserai les épis derrière quelqu'un qui sera bon envers moi en me permettant de le faire. » Noémie répond « Vas-y ma fille. » Ruth part et elle va dans un champ pour ramasser les épis derrière ceux qui récoltent. Par chance, j'aimerais bien mettre des guillemets, par chance, le champ où elle va est celui de Bouz ou Boaz, de la famille d'Elimelec. Un hasard ou pas? Non, ce n'est pas vraiment un hasard, hein, quand même. Mais quand même, elle se retrouve à travailler sur le champ d'un certain Boaz ou Bouz. Et je pense que Dieu était déjà là en train d'organiser quelque chose. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de Ruth et Boaz commence. Ils vont prendre le temps de se connaître. Ils vont prendre le temps de se respecter. On peut relever quelques faits sur leur rencontre. La première chose que j'aimerais relever, c'est que qu'on peut apprendre par rapport à vraiment tout ce passage-là, c'est que rencontrer son conjoint, ça se prépare. Et ça se prépare maintenant. Ce n'est pas lorsqu'on est marié qu'on se prépare à être en couple. Parce que là, c'est trop tard. Bien sûr, je ne dis pas que quand on est en couple, quand on est marié, on n'apprend pas de nouvelles choses. On apprend. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend. Moi, j'ai appris ça avec Marie-Valérie, une fois qu'on était mariés, que les manteaux, ça se met sur un porte-manteau. Je ne savais pas. Moi, je le prenais, je le balançais sur le canapé ou sur une chaise. Et pour moi, c'était rangé. Donc, il y a des choses que l'on apprend lorsqu'on est en couple. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a aussi une préparation en amont qui peut servir. Et vraiment, c'est peut-être une parole pour ceux et celles qui cherchent, qui sont en recherche ou qui sont en préparation pour être en couple. Préparez-vous avant pour mieux vivre votre mariage. En choisissant ici d'aller travailler pour manger et subvenir aux besoins de Naomi, en fait, Ruth était en train, quelque part, de se préparer. Elle a pris soin d'apprendre les habitudes d'un pays dont elle est complètement étrangère. Elle a travaillé durement. Ruth a pris ses responsabilités pour aller travailler. Elle a, je dirais, profité de son statut, soit de célibataire ou veuve, pour rendre service à Naomi. Par elle subvient donc à ses propres besoins, mais aussi à celles de Naomi. Parce que vous savez qu'une veuve à cette époque, c'était quand même compliqué. Et Ruth n'est pas allée chercher un mari tout de suite. Sa préoccupation était de travailler et pourvoir aux besoins de sa belle-mère Naomi. Et je crois que lorsque nous sommes dans cette attente de vouloir trouver la bonne personne, certes, on prie Dieu pour que Dieu nous mette vraiment la bonne personne, mais ce temps d'attente aussi doit être mis au profit pour servir Dieu, pour servir aussi les autres. Ce temps d'attente n'est pas sans conséquence d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que, il nous prépare aussi à pouvoir vivre des choses en couple. Lorsque l'on sert les autres, ça nous fait travailler, ça nous fait apprendre. La patience envers les autres, la persévérance, la douceur, la communication, l'écoute, le respect. Et toutes ces choses-là, finalement, sont importantes lorsque l'on arrive dans un couple. Et vous savez que l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Alors vraiment que ça soit un encouragement pour vous qui êtes en recherche, qui êtes en attente. Profitez de votre temps pour servir Dieu, pour servir un frère, une sœur, pour servir dans votre famille, pour être un témoignage. Et cela va participer, contribuer à ce que lorsque vous mettrez en couple, vous aurez travaillé la patience, vous aurez travaillé l'écoute, vous aurez travaillé l'encouragement, la douceur, etc. Parce que la réalité, c'est qu'une fois marié, ce n'est plus aussi simple et évident. On est moins disponible pour les autres parce que notre couple devient la priorité. Ensuite, que ce soit Ruth ou Boaz, tous les deux avaient un bon témoignage, et c'est ce que j'ai mis. Tous les deux portaient un bon témoignage. Ruth a eu un bon témoignage aux yeux de Boaz, et vice-versa. Ruth, vous savez, n'a pas cherché à attirer l'attention sur elle. Boaz, lui, c'était un homme bien, un homme de valeur. C'était un homme de Dieu et respectueux. il a pris le soin de se renseigner sur Ruth. Quand il va voir le chef de ses serviteurs, il va lui dire, mais c'est, qui est cette dame? Qui est cette fille qui travaille sur mon champ? Il va prendre le soin de la connaître. En fait, il n'a pas abusé de sa position d'homme puissant, mais il va garder aussi une certaine distance tout en manifestant sa bienveillance à l'égard de Ruth. Et lorsque Naomi va savoir que Ruth travaille dans le champ de Boaz, elle va lui conseiller donc d'aller dormir sur ses pieds un soir. Vous vous souvenez de ce passage? Elle va lui demander de se préparer, de se parfumer, de s'apprêter à être présentable. Alors c'est vrai que aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre quand même. On peut se dire, le conseil de la belle-mère. C'est Dieu d'Israël, d'accord? Ouais, mais là, quand même, elle me demande d'aller dormir sur les pieds de. Donc, c'est un acte vraiment qui peut nous sembler surprenant pour nous aujourd'hui, mais à cette époque, c'était vraiment quelque chose de respectueux. Et comprenez bien que derrière cet acte, il n'y avait pas de connotation sexuelle. Vraiment, ce n'était pas du tout pour ça. Mais c'était vraiment une façon respectueuse de montrer à cet homme, parce que vous savez que Boaz, c'était un parent de la famille du mari de Ruth, mais que selon les préceptes de l'époque, il savait très bien qu'il y avait une personne qui était prioritaire avant lui. Et en fait, cet acte que fait Ruth envers Boaz était simplement un signe de respect, mais aussi une manière de montrer qu'elle voulait que lui l'épouse pour justement, et qu'il soit en fait celui qui soit garant de sa famille. Et à la venue de Ruth le soir à ses pieds, qu'est-ce qu'a fait Boaz quand il s'est réveillé? Boaz, il va se réveiller, est-ce qu'il va dire, il va sauter sur elle? Et il va en profiter? Non. Lorsque Boaz se réveille, il n'en a pas profité du tout pour coucher avec elle. De même, Ruth n'a pas cherché à le tenter. Et même s'il pouvait y avoir peut-être de l'attirance l'un pour l'autre. Et c'est une chose importante pour nous, peut-être, de se préserver avant le mariage. Et Boaz avait reconnu la valeur chez Ruth. Dans Ruth chapitre 3 et au verset 10 et 11, il va dire ça à Ruth, il va dire « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » Et j'encourage vraiment tous ceux et celles qui désirent se marier ou à trouver une personne, à chercher une personne qui rend un bon témoignage, à chercher des hommes et des femmes de valeur, selon la parole de Dieu. Boaz a fait les choses dans les règles de l'art, comme je l'ai dit, il y avait une personne qui était prioritaire avant lui, pour pouvoir épouser Ruth. Et en fait, Boaz, il va s'y prendre correctement, il va faire les choses carrées. Et ça vraiment, c'est quelque chose qu'on peut remarquer, qu'on peut soulever de Boaz. Il va rester honnête jusqu'au bout, même au risque de ne pas pouvoir se marier avec Ruth. Parce que si cette personne qui était prioritaire avant lui décidait de prendre tout, et ben il épousait aussi Ruth. Et du coup, Boaz serait mis sur le côté. Mais il a été honnête jusqu'au bout. Mais le plan de Dieu, c'était que Ruth et Boaz se marient. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que lorsque Dieu aussi, vous savez, a organisé des choses d'avance, il ne faut pas non plus rater les opportunités que Dieu met devant nous. Si c'est de Dieu, vous savez, on se dit des fois, si c'est de Dieu, alors donne-moi un signe, Seigneur. Fait qu'il m'appelle tous les jours et puis là, je saurai que c'est lui. Ou attendre un signe particulier. Non, dans ce couple, on voit clairement que Dieu avait prévu les choses, mais Ruth et Boaz n'ont pas rendu la tâche plus difficile. Ruth n'est pas allée dans un autre champ. Elle aurait très bien pu choisir un autre champ finalement, mais elle ne l'a pas fait. Elle savait que c'était Boaz et elle est restée. Et je pense parfois que l'on complique les choses lorsqu'il s'agit de trouver la bonne personne. Vous savez, on peut être entouré de très bonnes personnes autour de nous qui sont là. On sent qu'il y a un feeling. que les choses ont l'air de s'imbriquer correctement. Et puis, au lieu de saisir cette opportunité, eh bien, on va demander à Dieu un signe particulier. Mais à partir du moment où l'on prend le temps de se connaître, que l'on est sur la même longueur d'onde, se marier, fonder un couple sur Dieu, eh bien, sachons saisir les opportunités de Dieu. Ruth et Boaz se marièrent et eurent un fils qui s'appelle Obed. Et Obed fut le grand-père de David. Ruth et Boaz sont donc inscrits dans la généalogie de Jésus. Enfin, sur le couple de Ruth, et je termine avec ça, ce qui est intéressant de voir, et c'est, vous savez, ce que ça revient souvent, ces questions-là, finalement, c'est les mariages mixtes ou inter-ethniques. En fait, un couple mixte, donc je parle sur le plan religieux. Et juste pour, voilà, pour aborder la chose, mais sans rentrer dans, en profondeur, voici ce que nous dit l'Ancien Testament. En fait, c'est une loi de l'Ancien Testament qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 7 et au verset 3 et 4. Il nous est dit ceci. « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et ils détruiraient bien vite. » Et cette interdiction-là que l'on trouve dans l'Ancien Testament n'était pas motivée par la couleur de peau, par rapport à la langue, la culture, mais c'était vraiment une interdiction sur le plan religieux et spirituel. Dieu interdisait aux Juifs de s'unir avec les autres peuples. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils adoraient d'autres dieux. Et en se mariant avec des étrangers ou des païens, en fait, les Juifs se seraient éloignés de Dieu. Et Malachie chapitre 2 et au verset 10 nous dit ceci, « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres ? Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. » Donc c'était quelque chose qui était fortement imprégné chez les Juifs, de ne pas se mélanger avec d'autres peuples parce qu'ils adoraient d'autres dieux. Et on a un exemple triste, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon qui, Dieu a accordé une sagesse extraordinaire. Il va épouser plusieurs femmes étrangères. Dans 1 Roi chapitre 11 et au verset 1 à 3, je vous lis juste le passage. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères en plus de la fille du Pharaon. Des Moabites, donc Moabites, Ruth, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines et ses femmes détournèrent son cœur. Il y avait de quoi, parce que... À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Conséquence dramatique pour Salomon. Salomon a désobéi à Dieu en épousant des femmes païennes et il eut l'audace aussi, vous savez, de construire à Jérusalem des temples d'idoles. Tout ça pour plaire à ses femmes. Il finit par adorer de faux dieux. Donc, ici, le couple de Ruth et Boaz se distingue parce que Ruth a choisi non pas de vivre selon ses coutumes païennes, mais parce que dès le début, elle a choisi de suivre le Dieu de sa belle-mère Naomi. Ensuite, que nous dit le Nouveau Testament ? Paul dira, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Dans le Nouveau Testament, Paul, en fait, il s'adresse aux Corinthiens et il y a quand même un contexte assez particulier avec les Corinthiens. Et Paul, en fait, utilise ici une image de l'Ancien Testament quand il dit « sous un joug étranger », qui consiste en fait à ne pas mettre cette image-là, en fait, il le prend de l'Ancien Testament et ce qu'elle voulait dire, en fait, c'était qu'il ne fallait pas mettre sous un même joug, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un joug, c'est un truc, une pièce en bois, vous voyez, où on met les animaux justement pour qu'ils tirent la charrue ou je sais plus le truc qui le voilà le truc derrière. Et en fait, ce qu'il voulait dire simplement, c'est qu'on pouvait pas mettre un âne et un bœuf, parce que sinon ça allait pas marcher. Automatiquement, il fallait mettre deux bœufs, parce que si on mettait quelque chose de différent. Bref, c'est ça que Paul, en tout cas, utilisait comme image. Et aujourd'hui, en fait, ce texte est souvent utilisé pour le mariage entre un croyant et un non-croyant. C'est une application qui est juste, c'est vrai. Mais Paul l'utilise ici pour reprendre les Corinthiens, donc les chrétiens de Corinthe, et il les encourage en fait à se purifier de tout ce qui peut corrompre le corps, l'esprit et leur morale. Il ne s'agit pas de se séparer finalement des non-croyants ou de ne plus entretenir de relations avec eux, parce que sinon ça rentrerait pas, ça serait pas cohérent avec la prière de Jésus quand il va s'adresser à Dieu et qu'il va dire ne retire pas tous les incroyants du monde. Il ne va pas dire ça, Jésus. Ce que ce verset nous apprend, c'est que en tant que chrétiens, nous ne devons pas adopter les valeurs et les normes des non-croyants, c'est-à-dire de ne pas nous associer à leur manière de vivre, finalement. Et je crois, pour un chrétien qui serait dans le choix de son futur époux ou future épouse, il doit impérativement veiller à cela. Pour s'engager avec un non-croyant, ben, il faut aussi être prêt à vivre sa foi d'une manière différente. C'est différent de vivre sa foi avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Moi, c'est vrai que voilà, il y a des sujets auxquels on ne peut pas aborder. La prière, l'Église, plein de sujets finalement. Et il faut aussi, et je pense que c'est intéressant, de définir aussi le terme chrétien. Parce que malheureusement, ça arrive aussi dans les couples chrétiens, qu'il y ait des tensions. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien finalement? Voilà ce que je voulais apporter avec vous. Je vous laisse juste dessus. Et puis, si vous voulez qu'on échange, on peut. Si vous avez des questions ou des sujets, des choses que vous voulez aborder, eh bien, je suis tout ouïe. Très bien. Ben, je vous propose de terminer par la prière alors. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne encore et je te prie Seigneur que par ton esprit tu viennes bien encore nous enseigner, que cette nourriture Seigneur puisse vraiment servir Seigneur mon Dieu pour que nous puissions être des couples Seigneur mon Dieu à ton image, peut-être des futurs couples à ton image. Et je te prie pour chaque couple qui compose ton assemblée Seigneur mon Dieu, je te prie que peu importe Seigneur mon Dieu l'arrière-plan du conjoint, du mari, de l'épouse, Seigneur. Je te prie que vraiment ta bénédiction puisse continuer à abonder dans les couples, Seigneur. Seigneur, on veut que tu sois toujours au centre de nos couples. Et je te prie, Seigneur, j'ai une pensée particulière pour ceux et celles qui ont un conjoint qui n'est pas converti. Seigneur, je te prie que vraiment tu encourages notre frère ou notre sœur, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, que tu lui donnes vraiment de s'accrocher à toi, de vraiment, Seigneur mon Dieu, puiser toutes ses forces en toi. Dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Vraiment que tu les soutiennes au quotidien, Seigneur mon Dieu. Combien ça peut être parfois décourageant, difficile, mais je te prie que vraiment, par ton esprit, tu viennes les vivifier. Tu viennes renouveler leurs pensées, renouveler leur intelligence, leur accorder, Seigneur mon Dieu, une intelligence renouvelée par toi, Jésus. Et que vraiment tu puisses briller au travers d'eux. Qu'ils soient un témoignage pour leur conjoint, leur mari ou leur femme, Seigneur mon Dieu. Pour peut-être les enfants aussi, Seigneur mon Dieu. Et qui puisse, Seigneur mon Dieu, vraiment, eh bien, s'accrocher à toi, parce que tu as vraiment, Seigneur mon Dieu, des paroles de vie, Seigneur mon Dieu. Alors merci vraiment de bénir. Je prie aussi pour ceux et celles qui sont en recherche, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu donnes, Seigneur mon Dieu, vraiment cette forme de préparation, Seigneur mon Dieu, de rechercher quelqu'un qui, oui, Seigneur, qui est engagé avec toi, Seigneur mon Dieu, qui rend un bon témoignage de ta part, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur, de parler à leur cœur chaque jour, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent vraiment s'appuyer sur toi, que tu viennes combler le vide s'il y en a un, Seigneur mon Dieu. Et je te prie vraiment d'encourager, Seigneur, parce que oui, Seigneur, ton assemblée est composée de toute situation familiale, Seigneur mon Dieu. Alors merci vraiment de bénir ton assemblée, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne encore. Amen.